Deux morts sur les routes ce week-end en Calédonie dans deux accidents distincts, l'un à Bouloupari, l'autre à Kouaoua. Remettre le dossier calédonien en haut de la pile, Sonia Baquet a fait ce matin sur RRB le point sur les nombreux entretiens qu'elle a eus à Paris. Dans ce journal, vous retrouverez aussi la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir. Aircale et Aircalin s'organisent pour la destination Port-Vila. Les rotations reprendront le 3 octobre. Le centre de formation des apprentis continue de se redéployer après avoir été détruit par les émeutes. Deux nouveaux lieux de formation ont ouvert ce matin au Mont-d'Or et à Dumbéa. Et puis en métropole, Michel Barnier poursuit ses consultations pour la formation de son gouvernement. Sa nomination à Matignon est un pis-aller, a déclaré Marine Le Pen qui faisait sa rentrée politique ce week-end. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. L'actu sport sera développé dans le magazine des sports du lundi. Bonjour Mickaël Juneski.
Bonjour Jean-François.
Nous ferons notamment le point sur la fin des Jeux Paralympiques.
Et oui, le rideau est tombé sur ces Jeux 2024. La cérémonie de clôture s'est tenue aujourd'hui pour achever en beauté l'Olympiade parisienne. La délégation française a atteint un objectif en terminant à la 8e place du classement des médailles. Classement dominé par la Chine. Les organisateurs et les athlètes expriment surtout leur fierté d'avoir participé à cette grande aventure, comme le Calédonien Pierre Ferbank pour ses derniers Jeux. Vous l'entendrez tout à l'heure.
Et puis nous évoquerons l'actualité du rugby. C'était ce week-end la reprise du top 14.
Les clubs de l'élite repartent à l'assaut du championnat de France et Toulouse repart sur ses bonnes habitudes. Une victoire chez le promu à Vannes pour un premier match du top 14 sur les terres bretonnes. Le stade toulousain se retrouve déjà co-leader du classement.
Dans l'actualité sportive en Calédonie, nous ferons le point sur le VAR.
Oui, nous serons en compagnie du vice-président de la Ligue, Richard Drouet. Alors que les compétitions ne peuvent toujours pas se dérouler pour les rameurs en raison du contexte actuel, il faut pourtant préparer des échéances. Alors que les meilleurs pratiquants ont déjà dû faire l'impasse sur les mondiaux à Hawaï, nous verrons comment la discipline tente de tenir le cap sur des eaux agitées avec Richard Drouet dans nos studios.
Deux drames sur les routes calédoniennes ce week-end. Hier soir, vers 23h, un jeune de 24 ans est mort à Kouaoua. D'après les premiers éléments de l'enquête, le conducteur qui n'était pas attaché faisait du drift sur une piste en terre quand il a perdu le contrôle de son véhicule qui a fait plusieurs tonneaux avant de finir sa course dans le lit de la rivière. La victime a été éjectée, le passager avant a été blessé et évacué vers le dispensaire de la Foix et les deux passagers arrière sont eux indemnes. Je vous rappelle qu'hier matin déjà, un motard de 58 ans avait perdu la vie dans une sortie de route à Bouloupari. Ces deux drames portent donc à 18 le nombre de personnes décédées sur les routes calédoniennes depuis le début de l'année. D'autre part, les forces de l'ordre sont toujours à la recherche de l'homme qui a gravement blessé samedi un gendarme à la jambe. Il a été renversé par un chauffard lors d'un contrôle routier au nord de la Foix. Une enquête est ouverte pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. De retour de Paris, où elle a eu de très nombreux contacts au plus haut niveau de l'État, Sonia Baquet était notre invitée du matin à 7h30 et elle est revenue sur ces échanges qui lui ont permis d'alerter ses interlocuteurs sur la gravité de la situation calédonienne. Avec le président de la République, elle a parlé ordre public et il a été question notamment de la situation de Saint-Louis. Elle a également parlé de la situation économique avec la nécessité de lancer des investissements publics.
C'est ce qui est le plus important pour moi et que soutenait le président de la République, c'est-à-dire qu'on passe d'un moment où on est dans des aides d'urgence, qu'on peut critiquer, qu'on peut considérer comme insuffisantes, mais il est urgent maintenant qu'on passe dans une phase de reconstruction. Et la reconstruction, elle commence avant tout par la reconstruction publique, parce que le privé, pour reconstruire, sauf quelques exceptions, on a vu Decathlon qui va réouvrir, et je salue ceux qui ont le courage de se relancer, mais globalement, le privé, il attend les assurances, il attend une stabilité politique, parce qu'il n'a pas envie de reconstruire en se disant qu'il va rebrûler. Alors que le public, concrètement, les investissements publics, si on a les financements, on est capable de les lancer rapidement.
Et ces investissements publics pourraient concerner divers secteurs, notamment le logement.
Tous les secteurs, ça peut être des routes, ça peut être des bâtiments, ça peut être... Vous savez que je travaille sur un dispositif de rénovation du logement social, puisqu'il n'est plus question de construire un seul logement social en province sud. Par contre, il est question de réhabiliter un certain nombre... Je pense à Tuban, par exemple, qui a été le fief d'un certain nombre d'affrontements. Tuban, je considère qu'il faut qu'on s'attaque à ces logements sociaux pour les rénover et pour, le cas échéant, en faire de l'accession à la propriété, pour finalement attirer des gens qui ont dû parfois s'expatrier un peu loin de Nouméa, alors qu'ils travaillent dans Nouméa, et qui pourraient avoir accès à des appartements de très bonne qualité au cœur de Nouméa. C'est un exemple, mais l'investissement public, tout de suite, ça donne du travail à beaucoup de Calédoniens et les plus de 20 000 personnes qui sont au chômage aujourd'hui ou au chômage partiel pourraient retrouver du travail et ne seraient plus ainsi indemnisées dans le cadre du chômage ou du chômage partiel.
La présidente de la province sud a aussi été interrogée sur l'avenir de la filière nickel et si elle pense qu'il n'y aura pas de repreneur dans l'immédiat pour KNS, elle est optimiste pour la SLN et pour l'usine du Sud.
Sur l'usine du Sud, on a un repreneur sérieux qui est resté repreneur sérieux sérieux malgré tout ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie. Non seulement qui est une société sérieuse, mais qui est sérieusement intéressée parce qu'ils souhaitent contrôler l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc on a un espoir sur l'usine du Sud et sur la SLN. J'ai eu l'occasion de rencontrer Christelle Bory qui continue à vouloir maintenir son investissement en Nouvelle-Calédonie. On a cru un moment, moi la première, que Eramet voulait partir. Or là, j'ai trouvé un actionnaire avec Eramet vraiment très convaincu d'une part que évidemment le minerai calédonien a un intérêt, mais d'autre part que la SLN et son process fonctionnent bien et que ce serait dommage de gâcher tout ça.
Au chapitre politique, Sonia Baquet se félicite de la défaite de Roch Ouamitan à la présidence du Congrès et elle s'inquiète de la situation du FLNKS. Elle confirme également que le président de la République envisage la reprise des discussions très prochainement à Paris.
On en a parlé avec le président de la République longuement. Il est très déterminé, me semble-t-il, à organiser une rencontre. Je ne sais pas sous quelle forme, je ne sais pas comment il arrivera à réunir tout le monde, mais il a la volonté de le faire. Il a la volonté de lancer en tout cas des invitations pour que nous puissions évoquer les différents sujets urgents. Je pense qu'on est aujourd'hui dans l'impossibilité d'organiser des élections avant le 15 décembre, l'impossibilité matérielle, mais il veut quand même acter un certain nombre de choses avant la fin de l'année, donc réunir tout le monde. Je pense qu'il en connaît les difficultés. On verra quelles sont les initiatives qu'il prend. Je crois aussi qu'il veut envoyer ici une mission pour essayer de trouver des points de convergence. On verra comment les choses évoluent.
Sonia Baquet a enfin évoqué la recherche d'unité du camp des partisans de la France avec une nouvelle réunion prévue dès cet après-midi. Une interview de Sonia Baquet qui est à retrouver en audio et vidéo sur notre site internet. L'actualité politique toujours et c'est l'heure de retrouver comme chaque lundi maintenant la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir.
Nous avons un nouveau Premier ministre et le moins que l'on puisse dire, c'est que sa nomination s'est faite attendre. Mais ça y est, Michel Barnier est installé à Matignon et après avoir donné à la France son plus jeune Premier ministre, Emmanuel Macron lui donne son chef de gouvernement le plus âgé de la Ve République. Une nomination aux allures de pied de nez de l'ancien monde au nouveau, comme l'a démontré la passation de pouvoir où l'ironie du Premier ministre entrant a répondu à l'arrogance du sortant, comme si le jeunisme et le dégagisme étaient passés de mode. La politique nous réserve décidément encore quelques grands spectacles. Nous attendons maintenant la composition du gouvernement et surtout, nous voulons savoir qui aura en charge le dossier calédonien. Va-t-il retourner à Matignon, comme ce fut longtemps le cas ? Va-t-il être confié au ministère de l'Intérieur, comme ces dernières années ? Ou le président de la République va-t-il le gérer directement, comme il en a exprimé l'intention ? On espère surtout que le dossier sera bien replacé en tête des priorités, une fois passés les Jeux Olympiques et les vacances métropolitaines. Et ce serait peut-être le bon moment pour créer une structure dédiée qui soit consacrée à la Nouvelle-Calédonie au plus haut niveau de l'État. Cette structure a souvent été évoquée et le temps semble venu, tant il y a de nombreux aspects à gérer en urgence. L'ordre public, bien sûr, mais aussi l'économie et sa situation cataclysmique, le social et ses risques d'explosion, la reconstruction dans tous les sens du terme, et la politique avec la recherche d'une solution institutionnelle. À ce titre, on se dit que le nouveau Premier ministre, qui a été l'un des négociateurs opiniâtres du Brexit, pourra apporter son expertise aux discussions sur l'avenir. S'il a su négocier avec les Anglais, il doit pouvoir le faire avec nos indépendantistes kanaks. Pour autant, on sait aussi que Michel Barnier a affiché sa préférence et qu'en 2021, avant le troisième référendum, il n'a pas hésité à apporter son plein soutien sans détour ni faux-semblant à ceux qui voteront pour que la Nouvelle-Calédonie reste française. Il ne faudrait pas que le FLNKS, ou ce qu'il en reste, dénonce par avance sa partialité. Un FLNKS groggy, après son pseudo 43e congrès et après la défaite de Roch Ouamitan à la présidence du congrès, il sait qu'il doit se repositionner et le Palika et l'UPM savent qu'ils ne peuvent pas rester inertes. Mais ce n'est pas si simple, parce qu'il faut auparavant se débarrasser de l'encombrante CCAT qui, même affaiblie, continue à terroriser jusque dans le camp indépendantiste et qui désormais échappe à tout le monde. La commission d'enquête sur les liens entre certains élus du Congrès et l'Azerbaïdjan, si elle voit le jour, pourra faire toute la lumière sur certains aspects encore obscurs dans les relations entre les indépendantistes et Bakou, sur les liens financiers notamment, mais aussi sur l'ingérence de ce pays dans l'insurrection violente qu'a connue la Nouvelle-Calédonie et sur le rôle qu'il a pu avoir dans l'émergence de la CCAT. Paris semble d'ailleurs avoir pris la mesure du problème. La France déconseille à ses ressortissants de se rendre en Azerbaïdjan. Le Quai d'Orsay estime qu'il s'expose à un risque d'arrestation, de détention arbitraire et de jugement inéquitable et que le respect des droits fondamentaux n'est pas garanti. Il est donc déconseillé aux Français de se rendre à Bakou, sauf raison impérative. Reste à savoir si la signature d'un mémorandum est un déplacement impératif.
La chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir, vous la retrouvez sur notre site internet. Vous pouvez aussi la réentendre cet après-midi, juste après le flash de 16h.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est donc l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu et voici notre question du jour. Êtes-vous satisfait de la nomination de Michel Barnier comme Premier ministre ? Si vous êtes satisfait, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 31-46. Une première pause dans ce journal à 11h41. Dans un instant, le reste de l'actualité en Calédonie et notamment Air Calédonie qui ouvre une ligne vers Port-Vila en coopération avec Air Calin.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Jusqu'au 30 septembre, lancez la roue de la chance Excellium avec Total Energy. Participez et gagnez des cartes cadeaux carburant. Un pack Apple avec un iPhone 15 et son AirPod Max. Un VTT électrique. Et plein d'autres cadeaux pour une valeur totale d'1 million de francs. Alors rendez-vous dans votre station Total Energy préférée pour lancer la roue de la chance et gagner des super cadeaux. Plus d'infos sur Facebook, règlement disponible en station.
RRB mobilisé, nous le devons à votre confiance et à votre fidélité. Toutes les équipes de Radio Rythme Bleu sont engagées à vos côtés pour vous informer, vous accompagner et vous aider dans ces temps difficiles.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Je vous le disais il y a un instant, Air Calédonie ouvre une ligne vers Port-Vila en coopération avec Air Calin. Le premier vol sera opéré le 3 octobre par un ATR 72-600 au départ de la Tontouta et deux rotations hebdomadaires seront programmées les lundis et les jeudis. Il s'agit d'un rapprochement avec la compagnie internationale Air Calin puisque le vol sera vendu au code cher. Air Calédonie estime que la demande est importante pour cette liaison avec le Vanuatu, explique Marion Gentelet, la directrice commerciale d'Air Cal.
Vraiment dans une logique de coopération entre Air Calédonie et Air Calin. Donc, dans la situation actuelle, ça correspond aussi à une attente des clients puisque la ligne Port-Vila n'est plus aujourd'hui assurée de manière régulière. Donc, ce projet arrive tout à fait dans un bon timing puisque Air Calédonie, effectivement, avait l'ambition depuis plusieurs mois et a travaillé depuis plusieurs mois à l'ouverture de cette ligne. Mais aujourd'hui, ça prend tout son sens compte tenu de la situation, à la fois pour Air Calédonie qui a besoin de retrouver du trafic et d'aller chercher de l'activité. Et puis également, dans le cadre des besoins d'Air Calin, de maintenir aussi un réseau pour ses clients. Donc voilà, le projet est tout à fait adapté. Ça reste une destination qui nécessite plutôt de petits avions. Donc la ATR est tout à fait idéal pour cette distance. Alors le temps de vol en ATR est d'1h30 entre Nouméa et Port-Vila. Donc nous allons l'opérer deux fois par semaine pour répondre à la demande sur la destination.
Les vols seront donc commercialisés dans les points de vente des deux compagnies, notamment sur leur site internet. Les lundis et les jeudis, les départs de la Tontouta auront lieu à 15h et les vols retour se poseront à 19h. Toujours du côté des transports, rail monte en puissance. Après avoir repris ses rotations sur la côte ouest et le nord la semaine dernière, le SMTI annonce la réouverture de nouvelles lignes à partir d'aujourd'hui. Le col d'Amieux étant praticable, les cars circuleront de nouveau entre Nouméa et Canala, entre Nouméa et Kouawa ou encore entre Canala et Koné. Reprise également de la ligne Arama-Poum-Koumak. Et puis une bonne nouvelle pour les élèves du Mont d'Or Sud. Ce matin, 4 navettes supplémentaires ont navigué entre Boulari et le Vallon d'Or. Ces bateaux de 12 places chacun sont exclusivement réservés aux élèves et au personnel enseignant du Mont d'Or. Une file spécifique leur est dédiée pour limiter l'attente au débarcadère et au port. Les navettes sont mobilisées sur les créneaux 6h30-8h et 15h-16h30. Un dispositif mis en place par la ville du Mont-d'Or et la province sud en collaboration avec le gouvernement et le vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie. Et puis le centre de formation de l'artisanat, le CFA, continue d'investir ses nouveaux locaux avec notamment deux nouveaux sites sur les communes du Mont-d'Or et de Dumbéa, Isabelle Pelletier.
Après la destruction de ses locaux de Nouville au début des émeutes, le centre de formation de l'artisanat n'a cessé de chercher des lieux pour héberger ses 250 apprentis. Ce matin, deux nouveaux sites ont fait l'objet d'une visite. Celui de l'école Adolphe Boutan, mise à disposition par la commune du Mont-d'Or, vont être regroupés l'ensemble des formations du CFA pour l'étude des matières fondamentales, comme les maths ou le français. Et celui d'atelier bâtiment et électricité, ouvert dans des locaux appartenant à la chambre de métier, située dans la ZAC Panda. L'occasion pour la présidente de la Chambre des métiers, Elisabeth Rivière, de délivrer un message de responsabilisation aux apprentis présents ce matin dans ces ateliers.
Ce sont des futurs salariés des entreprises, ce sont peut-être des chefs d'entreprise dans le futur. Il faut savoir qu'on est là pour les accompagner pour une formation, on n'est pas là pour les assister. Je crois qu'on a trop souvent l'habitude de tout donner. Aujourd'hui, on vit différemment après le 13 mai, c'est de leur faire prendre conscience qu'il y a des valeurs, qu'il faut les respecter et que tout ça a un coût et que ce coût est supporté par l'ensemble des chefs d'entreprise du monde artisanal puisque les artisans payent sur leur partante des centimes additionnels. Ces centimes additionnels participent activement à la formation de ces jeunes qui seront en entreprise demain. Les jeunes ont besoin de prendre conscience de tout cela par rapport aussi à la société dans laquelle ils vivent.
Auguste a 22 ans, il est en première année de CAP électricité. Après les difficultés rencontrées dans les premières semaines d'émeute, il est heureux de ce retour à la normale, mais il comprend qu'il faudra redoubler d'efforts dans le contexte actuel.
Après le 13 mai, déjà, c'était assez compliqué, surtout comme nous, je réside sur Rivière-Salée. Du coup, tout le premier mois, je l'ai passé sur Rivière-Salée avec les blocages hébergés, comme tout avait éclaté. Mais après, la reprise du travail s'est passée naturellement vers mi-juin. Mon entreprise, elle est positionnée sur Vallée des Collants et nos clients principaux, c'est l'Ossaria et la police. Et ça fait qu'on a pu reprendre sans grande difficulté. ZAC Panda, ce sera notre lieu de formation à moi et mes camarades de classe, vu que, on va dire, les locaux qui avaient été mis à disposition pour nous, ils ont tous été détériorés, détruits. Moi, je me dis que, comme elle dit, c'est compliqué, mais c'est la bonne volonté de chacun et la main à la pâte. Ce sera ça le seul moyen de reconstruire sur quelque chose de bien.
Éric Bertin est formateur en électricité au CFA et a retrouvé tous ses apprentis dans les ateliers de la ZAC Panda. Les premiers travaux sont pratico-pratiques. Il s'agit de la remise en état du matériel qui a pu être sauvé des anciens locaux du CFA.
Là, c'est la reprise pour effectivement ces alternants de la section CAP première année. Ils sont quasiment tous là. Donc tous les jeunes qu'on avait initialement avant le 13 mai sont encore sous contrat d'alternance. Et donc c'est une vraie source de satisfaction de les voir toujours pleinement impliqués au niveau de leur entreprise. Nous avons maintenu le lien à travers des échanges pédagogiques sous forme numérique, même si ce n'était pas forcément simple, parce que ils ont leur journée de 8 heures déjà à faire. Maintenant, on reprend en présentiel, ce qui est quand même mieux pour eux, mais aussi pour nous aussi en tant que formateurs. C'est bien et c'est très motivant de les avoir.
À ce jour, 27 sections sur les 33 que compte le CFA ont repris leur formation. Le CFA comptait 280 apprentis avant le 13 mai. Seule une trentaine manque à l'appel aujourd'hui.
Encore un mot de l'actualité en Calédonie pour vous signaler que le salon Nature, Maison et Déco est annulé. Un temps maintenu, la 9e édition n'aura finalement pas lieu le week-end prochain. Après le dernier arrêté du Haut-Commissariat qui interdit tout rassemblement, manifestation et cortège sur l'ensemble du domaine public à Nouméa, Dumbéa, Mondor et Païta, les organisateurs travaillent en lien avec la mairie de Nouméa pour reprogrammer le salon le mois prochain, c'est-à-dire les 12 et 13 octobre ou alors les 19 et 20 octobre. Au chapitre politique, le comité central de l'UPM s'est réuni samedi et il est revenu sur le congrès réuni à Koumac le week-end dernier. Dans un communiqué, l'UPM tient à réaffirmer sa fidélité à la symbolique de la poignée de main du 26 juin 1988 et à la nécessité d'une clarification stratégique au sein du FLNKS pour parvenir à la souveraineté de notre pays. Elle indique qu'elle ne se reconnaît pas dans les actions commises depuis le 13 mai qui sont responsables de l'effondrement socio-économique du pays attendu dans les prochaines semaines. L'UPN demande aussi la mise en œuvre des conditions nécessaires à la tenue d'un débat serein et apaisé sur le fonctionnement du FLNKS. Le comité central de l'UPM constate en effet la qualification en congrès du FLNKS de ce rassemblement du 30 août, malgré l'absence de deux des composantes majeures et la nomination à sa tête du président de la CCAT Union Calédonienne, responsable des événements survenus depuis le 13 mai. Pour ces différentes raisons, l'UPM décide de suspendre sa participation au fonctionnement du FLNKS jusqu'à son prochain congrès prévu les 9 et 10 novembre prochains. À Poum. Il est 11h50, une nouvelle pause dans ce journal et dans un instant nous évoquerons ce qui fait l'essentiel de l'actualité en métropole.
RRB 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Ah, ces assurances.
J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi.
Va chez AXA, Agence Ixon à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, Agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux. RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite d'Infomag, on retrouve Jean-François Baudin.
Avec l'actualité en métropole, et Michel Barnier doit maintenant constituer son gouvernement. Le nouveau Premier ministre continue pour cela de consulter. Il a notamment reçu la nuit dernière pour nous Édouard Philippe ou encore François Bayrou. Et pendant ce temps, Marine Le Pen, elle, a fait sa rentrée politique dans son fief d'Hénin-Beaumont, où elle a inauguré la braderie et fait passer aussi quelques messages politiques. Maximilien Carlier pour Europe 1.
Je vais pouvoir venir fouiner un jeune petit-fils.
Marine Le Pen au milieu des bras de poignée de main et selfie pendant une heure, puis prise de parole au sujet de Michel Barnier.
Je n'ai pas choisi le Premier ministre, je ne suis pas DRH d'Emmanuel Macron. Certes, il est sous surveillance de l'ensemble des Français et le Rassemblement national est une part importante de ces Français.
11 millions d'électeurs, ajoute la chef de file des députés RN, qui a tenu un discours ensuite devant 150 militants et sympathisants.
La nomination de Michel Barnier est un pis-aller, loin de l'espoir que le Rassemblement national et ses électeurs portent pour la France. Mais sûrement mieux qu'un Premier ministre d'extrême gauche avec son programme délirant et sa haine en bandoulière. Nous n'accorderons pas de blanc-seing. Si au fil des semaines, les Français devaient à nouveau être oubliés ou maltraités, nous n'hésiterons pas à censurer le gouvernement.
Marine Le Pen qui appelle également le chef de l'État à avoir recours au référendum sur les sujets prioritaires comme le pouvoir d'achat, la sécurité et l'immigration.
Et à gauche, les tiraillements continuent au sein du nouveau Front populaire. L'ancien député socialiste Julien Drey est très critique sur son parti, le PS, qui aurait dû, selon lui, c'est ce qu'il a dit sur CNews, soutenir la candidature de Bernard Cazeneuve à Matignon au lieu de s'aligner sur celle de Lucie Castet.
Il y a incontestablement une bêtise politique incommensurable de la part de la direction du Parti Socialiste, pas de la part de la France Insoumise. La France Insoumise, elle a pris en otage toute la gauche. Monsieur Mélenchon, c'est le geôlier de toute la gauche. La faute politique qui a été commise, c'est effectivement de ne pas soutenir l'un des siens avec des réserves, avec de la prudence, etc. Oui, c'est vrai, ils ont donné le prétexte pour que M. Cazeneuve ne soit pas choisi. Donc il y a une faute politique majeure qui devrait être sanctionnée par un congrès du Parti Socialiste et qui devrait conduire d'ailleurs à ce que cette direction actuelle soit mise à la retraite au profit d'une nouvelle direction qui soit capable enfin de défendre une gauche réformiste qui ne soit plus l'otage de la radicalité mélenchonienne.
Pour être clair, il faut évincer Olivier Faure.
Pour être clair, il faut le foutre dehors, hein. Si j'étais militant socialiste, je militerais pour le foutre dehors. Mais écoutez-moi, il a un bilan désastreux.
Julien Drey sur le plateau de nos confrères de CNews. L'actualité en métropole, marquée aussi par ce drame à Grenoble. Un agent municipal a été tué par balle alors qu'il intervenait sur un accident de la circulation. Le récit de Guillaume Dominguez.
Tout est allé très vite. Il est 7h30 du matin lorsqu'une Peugeot 2008 grise s'arrête au feu rouge du boulevard Jean Pin, près de la mairie de Grenoble. L'instant d'après, une Audi de gros cylindrée lancée à vive allure la percute par l'arrière. Le choc est terrible, le bolide allemand plié en deux. Alerté par le vacarme, plusieurs badauds, témoins de la scène, se précipitent pour porter secours aux passagers des deux voitures. Parmi eux, un agent municipal en fonction. Au volant de la Peugeot grise, une dame âgée, légèrement blessée, se laisse faire. En revanche, le conducteur de la berline lui refuse toute assistance. Ivre, il se montre même agressif. Il tente de prendre la fuite, passant une marche arrière, mais sa voiture ne répond plus. Un passant et l'agent de la ville essayent alors de l'empêcher de s'enfuir, mais une altercation éclate selon plusieurs témoins. Deux coups de feu retentissent, l'employé municipal s'effondre, touché au thorax. Le conducteur de l'Audi, lui, auteur des coups de feu, prend la fuite. L'enquête devra déterminer les circonstances exactes du drame. L'homme est toujours activement recherché.
Et le profil du meurtrier pourrait être lié au grand banditisme. Sa voiture était immatriculée en Pologne et les enquêteurs ont retrouvé des douilles de 9 mm sur le lieu du drame. Le maire de Grenoble a qualifié ce drame d'accident de la circulation. L'écologiste Éric Piolle a même déclaré que personne n'est à l'abri d'une balle perdue, ce qui fait réagir Denis Jacob, ancien policier et consultant sécurité.
Ce
qui me surprend surtout dans le discours de M. Piolle, c'est quand même son aspect de résignation. C'est la faute à pas de chance. Malheureusement, nous, on ne peut rien faire. Enfin, c'est quand même assez hallucinant. Je rappelle quand même que la responsabilité collective de l'État, des collectivités territoriales, elle est engagée. Quand on a un maire qui dit qu'on ne peut pas lier ça à l'insécurité, mais à la libre circulation des armes, il faut quand même rappeler que Grenoble est l'une des villes où la police municipale demande son armement depuis des années et qu'à ce jour, ils ne le sont toujours pas. Donc, commençons déjà par donner les moyens aux agents de police municipale et de police nationale de renforcer leur capacité à lutter contre cette grande délinquance et cette criminalité, et peut-être qu'on arrivera quand même à endiguer cette criminalité.
Denis Jacob, ancien policier et consultant sécurité.